Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Nous avons une heure à passer ensemble dans notre bulle d'optimisme pour découvrir des femmes et des hommes qui ont l'audace d'entreprendre. Et même quand c'est impossible, à La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe, aujourd'hui, un invité exceptionnel dans La France bouge.
Oui, il a donné naissance à un géant incontesté de la gestion de l'eau et des déchets. Il a avalé une grosse partie de Suez. Alors tiens, qu'est-ce que ça va changer pour nous, consommateurs ? Les déchets sont par ailleurs devenus une véritable richesse en cette période de pénurie de matières premières. La transition écologique est-elle enfin enclenchée ? Veolia, une entreprise qui recrute par ailleurs à tour de bras. Antoine Frérot, patron de Veolia, invité d'Europe 1 et de La France bouge jusqu'à 14h.
À la une, en effet, le rôle de la recherche génétique appliquée à l'environnement. On a trouvé une start-up, Montpellier-Rennes, qui surveille le Covid dans les eaux usées de France, cette IAGE. Et son président va nous raconter comment il détecte le virus.
Jacques Chirac l'avait promis, nous allons un jour pouvoir nous baigner dans la Seine. Est-ce que le SIAP nous permettra de le faire ? Ce sont eux en tout cas qui gèrent les eaux usées de Paris. Un réseau de 400 km, ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Les trophées Europe 1 de l'avenir, La France bouge avec notre partenaire la CCI. Nous avons choisi Ciao Mego. C'est une start-up qui recycle les mégots pour en faire une matière isolante. Le pitch va-t-il vous convaincre ? Réponse à 13h45. Allez, bienvenue dans La France bouge. C'est parti, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1. L'eau au robinet, le ramassage de nos déchets, surtout le traitement et la valorisation de nos déchets. Invité exceptionnel de La France bouge jusqu'à 14h.
Bonjour Antoine Frérot.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Veolia. C'est l'un de nos plus beaux fleurons industriels. Veolia, c'est plus de 180 000 salariés à travers le monde. Vous vous présentez comme l'entreprise de référence de la transformation écologique. Vous concevez et déployez des solutions sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie. Vous venez tout juste de croquer une bonne partie de l'ex-Suez au terme d'une bataille homérique qui restera dans les annales du capitalisme français. En tout cas, ce rapprochement fait de vous aujourd'hui, Antoine Frérot, le leader mondial incontesté de tous ces métiers. Alors maintenant que cette opération est enfin bouclée, qu'est-ce que ça va changer concrètement, Antoine Frérot, pour nous, les consommateurs en France ?
Alors effectivement, à quoi ça va servir ? Un grand champion mondial de la transformation écologique, qui plus est français, mais qui rayonne sur le monde entier. Eh bien, tout simplement, à accélérer la transformation écologique des territoires et des industries. Ce n'est pas la peine d'insister sur le fait que l'urgence écologique n'a jamais été aussi forte et que nous avons besoin de solutions, de déployer au maximum les solutions qui existent, mais aussi d'imaginer et d'inventer de nouvelles solutions pour réussir cette transformation écologique. Alors, au-delà des métiers traditionnels que vous avez cités, monsieur Dutheil, la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets, ce grand champion va servir à deux choses. D'abord, à généraliser, à dupliquer autant que possible les solutions qui existent déjà, mais qu'on maîtrise bien, mais qui ne sont pas assez généralisées. Le recyclage des plastiques. On sait recycler 80% des plastiques, on n'en recycle que 10%. On peut, on doit accélérer. Ou bien la réutilisation des eaux usées. Parce que l'eau est souvent trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Et il faut pouvoir la réutiliser après avoir poussé les traitements.
Eh bien tiens, justement, allons sur le marché de l'eau. Jusque-là, il y avait plusieurs concurrents en France, et deux gros notamment, Veolia et votre ancien concurrent Suez. Il y a quand même d'autres concurrents aussi, comme la SOR. La concurrence va quand même être moins vive. Est-ce que ça pourrait faire augmenter les prix en France pour nous, consommateurs ? On est basique, vous savez, avec Elisabeth, mais ça nous intéresse.
Eh bien, c'est une bonne question, mais la réponse est non. Non, parce qu'il y aura autant de concurrents en France, car vous le savez, pour des raisons de concurrence notamment, les activités françaises et un petit peu aussi hors de France de Suez vont rester indépendantes. Et donc, elles vont s'appeler Suez, et vous aurez toujours les trois mêmes acteurs en France, plus les autres qui existent, Veolia, Suez, SOR, et avec la même quantité d'activités en France. Et ce sont les mêmes équipes de Suez, aujourd'hui et demain. Donc en France, vous aurez la même compétition, et donc il n'y aura aucune conséquence sur la compétition, et donc sur les prix.
Mais Antoine Frérot, c'est ce que vous dites aujourd'hui, mais le patron de la SOR, justement, à ce même micro, il y a quelques mois, nous disait qu'il allait falloir augmenter les prix de l'eau pour financer tous les investissements, les énormes investissements que pour moderniser le réseau d'eau en France. Est-ce que c'est votre sentiment ? Aujourd'hui, vous dites non, mais
en tous
après...
les... ce que disait le patron de la SOR, votre micro n'a rien à voir avec le rapprochement entre Veolia et Suez.
Non.
On est d'accord.
Il a à voir avec... que malgré tout, il va falloir augmenter les prix parce qu'il va falloir investir sur un réseau. Et on ne le sait pas toujours, il paraît qu'il est vieillissant ce réseau. Alors, un peu comme les rails finalement de la SNCF.
Le prix de l'eau a beaucoup diminué depuis 10 ans. Tout en augmentant les prestations de l'épuration des eaux usées. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans le prix de l'eau, c'est moitié de l'eau potable, moitié de l'eau usée.
Bien sûr.
Bon, il y a encore des efforts à faire en matière de traitement d'eau usée, et notamment si on veut recycler l'eau, mais tout ceci pour faire face à la rareté. Bon. Par ailleurs, il faut entretenir les infrastructures, et il est possible qu'effectivement, le prix de l'eau étant un peu trop baissé au cours des 10 dernières années, il va falloir en tous les cas entretenir au mieux le patrimoine.
Donc,
il
est possible,
donc ça va augmenter.
Oui, ça peut avoir un coût dans certains territoires, là où les investissements n'ont pas été assez suffisants. Dans les villes, vraisemblablement, ce ne sera pas le cas.
Donc, un réseau d'eau plus sûr, hein, grâce à la technologie. Vous mettez, Antoine Frérot, des capteurs partout pour prévenir les éventuelles pannes à venir ?
Oui, et puis non seulement pour prévenir les pannes, mais également pour mesurer les quantités consommées, pour mesurer les quantités éventuellement perdues pour les fuites, pour prévenir chaque client de sa consommation, et notamment lorsqu'elle augmente brutalement, vraisemblablement lui signaler peut-être une fuite dans les toilettes. Vous savez qu'une petite fuite dans des toilettes dans un appartement, ça double la consommation de la journée. Donc pour le prévenir le plus tôt possible pour qu'il fasse réparer. Mais également pour faire des mesures de qualité en temps réel également. Tout à l'heure, on en parlera avec Vigicovid aussi, mais effectivement, de plus en plus, les infrastructures sont équipées de puces, de capteurs permettant de mieux piloter et de mieux prévenir les dysfonctionnements des équipements.
Vous le disiez, le fait d'être plus gros, hein, vous étiez déjà numéro un mondial, mais sur un marché où le numéro un mondial ne représente pas grand-chose. Là, aujourd'hui, vous avez une taille beaucoup plus certaine. Vous disiez, ça va nous permettre d'être plus fort parce qu'on va pouvoir dupliquer les bonnes pratiques qu'on découvre un peu partout dans le monde. Si on regarde, par exemple, en France, sur le marché de l'eau, sur quoi vous travaillez comme innovation, au-delà de, peut-être même de ces capteurs, qui vont nous changer la vie pour demain ?
J'étais hier à Monaco et j'ai inauguré avec le prince les grands travaux d'agrandissement et surtout d'affinage de la station d'épuration. Cette station d'épuration de Monaco, aujourd'hui, elle dépasse les normes demandé par l'Union européenne de 40%. Au point que l'eau qui sort de cette station d'épuration, qui est pour l'instant rejetée en mer, il lui faudrait un tout petit peu de traitement de plus pour pouvoir la réutiliser. D'abord pour arroser les espaces verts, mais pour nettoyer les rues, pour nettoyer les lieux de stockage. Et comme on le fait à Singapour, comme on l'a fait en Namibie, en Afrique, comme on le fait aussi en Australie, la réutiliser pour faire de l'eau potable. Or, Monaco, elle dépend pour son eau de tout ce qui vient du dessus et dans les territoires où l'eau se raréfie. Ce sera
mais on
un
pourrait,
jour...
parce que là, on vous entend dire l'eau rare. En France, on pourrait manquer d'eau ?
Absolument.
L'eau à un horizon qu'on est capable de mesurer ?
Dès maintenant. Je peux vous dire que, par exemple, dans le sud-ouest, dans 10 ans, on aura sans doute la moitié du débit de la Garonne d'aujourd'hui.
Bon.
Bon. Mais en Vendée, déjà, les conflits d'usage en été entre les estivants et l'agriculture font que l'eau est assez rare également.
Oui,
et
que ce que vous nous dites, c'est qu'il faut investir maintenant beaucoup pour prévenir cette rareté à venir inéluctable.
C'est ce qu'ont fait les Vendéens en investissant dans un équipement qui permet de recycler l'eau usée à des fins agricoles, mais aussi à des fins d'alimentation en eau des populations. Ça, M. Dutheil, c'est pour dupliquer les solutions qui n'existent pas encore. Qui existent déjà, mais qui sont insuffisamment dupliquées, excusez-moi. Mais il y a un autre intérêt à ce grand champion, c'est d'inventer les solutions qui n'existent pas encore. Mmh. Et dans 20 ans, si nous voulons réussir la transformation écologique, eh bien nous utiliserons des solutions dont sans doute une petite moitié n'existe pas aujourd'hui encore. Le recyclage des batteries des véhicules électriques, la garantie de la qualité de l'air dans tous les bâtiments qui reçoivent du public, les écoles, les supermarchés, les bureaux, la capture du carbone. Comment alimenter 10 milliards de personnes sur la Terre, avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Ces solutions-là, elles sont à inventer. Et notre grande entreprise élargie, avec les moyens renforcés, les talents renforcés, son empreinte géographique renforcée, sa puissance financière aussi renforcée, va permettre d'inventer davantage de solutions pour réussir cette transformation écologique.
Et il faut inventer des solutions pour la transformation écologique, préparer, investir massivement dans l'eau pour éviter la rareté. On va continuer à parler de tous ces thèmes précieux avec vous, Antoine Frérot. Vous êtes le PDG de Veolia.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Une France bouche consacrée à la gestion de l'eau, à la gestion de nos déchets avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Il n'est pas vraiment pris la parole depuis l'annonce de la fusion avec Suez. C'est Antoine Frérot, le patron de Veolia. Il a choisi la France bouge et Europe 1 pour s'exprimer.
Et on l'a vu avec l'épidémie de Covid, les eaux usées nous donnent beaucoup d'indications pour détecter précocement le Covid et donc mieux l'anticiper. C'est ce que vous faites, France Durandet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'IAGE, une start-up montpelliéraine qui existe depuis 2017. Et votre activité principale, eh bien, c'est de détecter, vous vous dites, le vivant dans l'environnement. En gros, ça signifie que votre technologie permet de détecter dans les eaux, dans l'air, sur les sols, ce que vous dites de l'ADN environnemental, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça.
Comment ça fonctionne ?
Alors concrètement, ça fonctionne. Aujourd'hui, tout le monde connaît malheureusement la PCR parce qu'on a tous été contraints de faire ces tests-là.
Ça continue.
Si on pouvait en parler au passé, on en serait bien heureux.
Et ça continue, effectivement. Alors nous, en fait, on s'est doté de la dernière génération de PCR. Donc c'est une PCR qui n'est pas encore très généralement utilisée pour tous les diagnostics. Mmh. Mais globalement, c'est une technologie qui est principalement utilisée pour le diagnostic médical, la recherche de cancer et maladies infectieuses. IAGE a voulu...
Cette technologie du PCR au service de l'environnement.
C'est exactement ça.
C'est incroyable.
Et alors... si on a eu envie que vous soyez avec nous, hein, c'est que vous pouvez détecter le Covid dans les eaux usées. On en avait beaucoup parlé au pire moment de chacune des épidémies, parce que souvent...
C'était les premiers signes.
Exactement. Tout je crois fait. Que deux, trois semaines à l'avance, on est capable de savoir que l'épidémie arrive. Dites-nous dans que ça décroît, là. Dites-nous que ça décroît.
Malheureusement,
sinon, vous sortez du studio.
Malheureusement, non. Mais par contre, oui, effectivement, c'est ça. On en parlait souvent dans les pires moments, parce qu'en fait... Aujourd'hui, c'est vraiment un système d'alerte précoce. Et aujourd'hui, même avec la technologie que nous, on emploie, on est arrivé jusqu'à déterminer l'arrivée des nouveaux variants.
Oui, c'est ça. Vous arrivez à détecter la présence des variants. C'est 10 fois mieux qu'un laboratoire d'analyse. Parce que vous êtes en amont, vous.
Oui. Alors, c'est un petit peu ce qui est un peu frustrant. Parce que du coup, on est souvent donneur d'alerte, mais on n'est pas forcément toujours écouté.
Vous donnez les mauvaises... Pourquoi vous n'êtes pas toujours écouté ? Puisque c'est fiable, votre technologie.
C'est fiable, mais c'est une nouvelle forme d'analyse. C'est ce qu'on appelle le WBE, le Wastewater Based Epidemiology. En fait, c'est utiliser les eaux usées pour... appréhender une épidémie. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement récent, surtout en France. Mmh. Et donc, les acteurs publics s'en saisissent difficilement, parce que c'est même pour nous.
Parce que ça change leurs habitudes, c'est ça ?
Mais on n'a pas beaucoup de recul pour...
Mais le variant d'Omicron, là, par exemple, dont on commence à parler, oui. Vous commencez-vous déjà à le voir ?
Oui, tout à fait.
On l'a vu avant.
On l'a vu bien avant,
novembre,
même, effectivement.
Oui. Ouais, et là, il y a quoi ? Il y a un nouveau variant ou peut-être qu'il y a d'autres épidémies qui arrivent ? J'en sais rien, moi.
Ça devient extrêmement compliqué, parce qu'en fait, maintenant, on est dans les eaux usées, on assiste à une soupe de variants, comme on dit, parce qu'il y a des variants, mais il y a aussi des sous-variants. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a quand même des difficultés à distinguer qui est quoi, même si on est capable avec certitude de dire qu'il y a quelque chose de nouveau.
Mais vous dites, vous utilisez donc une technique plus avancée du fameux PCR qu'on se met à travers les narines, là au fond des narines. Mais vous, comment ça fonctionne ? Vous avez des échantillonnages à la sortie des stations d'épuration,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, c'est sur la base des échantillons biologiques qui sont prélevés sur 24 heures à l'entrée des stations d'épuration, que nous on récupère une fraction de cet échantillon, qu'on concentre, qu'on extrait le matériel génétique présent dans ce concentrat et après qu'on analyse avec cette technologie.
Donc ça signifie que vous travaillez en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé aussi, avec tous ceux qui sont sur le front, ou pas du tout ?
Alors, pas toujours. Alors, on a clairement des contacts avec la direction générale de santé, mais c'est comme je vous ai dit encore,
c'est pas encore automatique.
Voilà, c'est pas encore quelque chose d'automatique, et c'est ce qu'on espère à l'avenir.
Antoine Frérot, vous êtes le patron de Veolia. Vous travaillez avec, bien évidemment, ce genre de solutions. Vous êtes aux avant-postes, vous aussi, cette crise Covid.
Mais on travaille avec IAGE, absolument, puisqu'on a une quinzaine de nos grandes stations d'épuration en France qui sont équipées du système et qui mesurent en permanence l'évolution de la quantité de virus. Il faut savoir que quand il arrive à la station d'épuration, le virus, il est mort, hein, quand même. On en trouve des morceaux.
Oui, c'est un point très très important. C'est-à-dire que l'eau qui arrive au robinet, qu'on ne crée pas une psychose,
oui, bien sûr.
Je pense que c'est important de le redire, elle est bonne. Et en plus, en France, elle est de très bonne qualité, que ce soit la vôtre ou celle de tous vos concurrents.
Absolument, mais en plus, une station d'épuration n'a rien à voir avec une usine.
Bien sûr,
mais même la station d'épuration, il est mort, il est en morceaux. Ouais. Donc il faut récupérer l'ADN, c'est pas toujours simple. Il faut qu'il y en ait une certaine quantité pour qu'on puisse mesurer. Sinon, on voit pas le bruit, c'est trop petit. Enfin, au bout d'un certain moment, on le voit. Et donc, nous alertons, notamment les collectivités locales, avant même les agences de santé, et elles, relais auprès du ministère de la Santé et de ses agences de santé. Ça nous permet de voir monter puis descendre globalement sur le bassin drainé par la station. Ça peut être d'une ville tout entière. On ne peut pas détecter rue par rue, maison par maison, hein, bien sûr. Mais sur une ville, on voit la population s'infecter et on le voit effectivement par variant. Bon. Ça permet donc d'avoir, à travers les eaux usées, à travers les eaux des toilettes, hein, bien sûr, un petit peu d'avance, on va dire 15 jours peut-être.
C'est énorme.
Dans le meilleur des cas.
Trois semaines sur une épidémie, c'est colossal.
Donc on peut dire si ça monte ou si ça descend.
On a retenu qu'on est toujours sur un palier haut, si j'ai bien compris.
On peut qualifier l'ampleur, effectivement, hein, de la contamination de la population. C'est une première, mais ça pourra servir dans d'autres cas.
Pour d'autres pathologies, pour les gastro, pour la grippe.
Exactement. Absolument.
Franz Durand est donc président d'IAGE. Votre ambition, c'est quoi ? C'est de généraliser cette surveillance épidémiologique ?
Alors, c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on essaye de faire.
Oui, mais que ça devienne réglementaire, encadré finalement.
Ce serait effectivement l'idéal.
Donc, davantage écouté.
Tout à fait. Alors nous, on a déjà développé un certain nombre de systèmes qui nous permettent de détecter les virus responsables des gastro-entérites ou des grippes ou encore des hépatites dans les eaux.
Vous voulez devenir un lanceur d'alerte ?
C'est pas forcément.
Mais comment vous rémunérez avec tout ça ? Qu'est-ce qui vous paye au bout du bout ? C'est Veolia, votre client ?
Aujourd'hui, c'est Veolia parce que c'est Veolia qui a investi dans ce système d'alerte.
Vous avez des concurrents ?
Alors on a des concurrents, oui, on a des concurrents. On n'est pas les seuls à le faire dans le monde, hein, parce que comme je vous ai dit, ce mouvement WBE est quelque chose d'assez mondial. Et effectivement, même en France, il y a des acteurs publics même qui le font. Hein. C'est notamment le réseau Webin qui a été mandaté.
Effectivement, dont on a aussi plusieurs
mais
fois.
Mais on est les seuls acteurs privés à le faire de cette manière-là et de pouvoir le diffuser sur le territoire national voire international.
Moi, je peux ajouter que c'est cette solution. Vigicovid, développé avec IAGE, c'est la solution la plus opérationnelle en Europe. On en a testé d'autres, et si on a retenu celle-là...
Parce que pour vous, c'est la plus performante.
C'est la plus performante, absolument. Il faut bien dire que c'est complémentaire hein, aux autres dispositifs de suivi de l'épidémie. Ça ne va pas remplacer
les autres dispositifs.
Je pense très bien, Elisabeth, elle a le bon mot. C'est un lanceur d'alerte.
Voilà, absolument.
On continuera donc à en parler, j'en suis sûre. Hein. Vous êtes le président d'IAGE, Franz Durand. Merci d'être venu dans La France Bouge aujourd'hui.
Et Antoine Frérot, patron de Veolia, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Émission spéciale consacrée à la gestion de l'eau et des déchets avec un invité exceptionnel aujourd'hui dans La France Bouge, Antoine Frérot, le patron de Veolia. Alors si on a parlé déjà pas mal du traitement des eaux, on va peut-être maintenant s'intéresser aux déchets parce que c'est l'autre grand pan de vos métiers. On est en période de pénurie de matières premières et il paraît qu'aujourd'hui, les déchets n'ont jamais valu autant d'argent parce qu'ils sont réutilisés, retraités et donc ils ont une énorme valeur aujourd'hui. C'est vrai déjà ça ?
Oui, il est exact que les déchets, nos poubelles, et les déchets en général, c'est la première mine du 21e siècle. Et elle a deux intérêts. Elle est chez nous, alors qu'on n'a pas beaucoup d'autres ressources minières importantes ou intéressantes. Et puis, elle est proche des lieux d'utilisation de la matière première. C'est-à-dire qu'on peut raccourcir considérablement le circuit. Aller chercher des matières premières dans les mines, à l'autre bout de la terre, les extraire, les transporter, les transformer pour fabriquer les produits ou les services.
Mais ces déchets, ils ne peuvent pas servir à tout, si, quasiment à tout ?
Alors, non, mais de plus en plus, au fur et à mesure qu'on apprend à recycler ces déchets, on en recycle de plus en plus. Et on raccourcit les chaînes, et surtout, on émet beaucoup moins de CO2. Fabriquer une bouteille d'eau en plastique avec du plastique recyclé, c'est 70% de moins de CO2 qu'avec du plastique vierge, neuf, classique. Et c'est encore plus important pour les métaux. Et en plus, quand les métaux sont rares, imaginez le lithium, le cobalt, dont on a besoin pour les batteries électriques, lorsqu'on aura beaucoup de batteries électriques, et ça ne va pas tarder, eh bien on sera bien content de pouvoir les recycler pour pouvoir les avoir chez nous et pas aller les chercher au bout du monde, éventuellement avec des tensions géopolitiques.
Donc, grâce à la crise, si l'on peut dire, de nombreux groupes sont en train de passer au recyclé, là.
Absolument. Ouais. D'abord parce que il y a une demande des consommateurs et je reprends l'exemple des bouteilles d'eau en plastique. Les consommateurs de bouteilles d'eau maintenant sont sensibles au fait que les bouteilles soient recyclées.
On a pris le temps de prendre conscience.
Absolument.
Et des grands acteurs ont enfin fait l'effort. Je pense à Tropicana notamment qui avait fait un peu sensation puisqu'ils étaient passés des bouteilles en verre aux bouteilles en plastique. Ça avait leur pas créé une bonne com au démarrage. Alors, c'est vraiment plus écologique de faire ça ?
Ah ben bien sûr, le verre, ça se recycle, mais le verre, c'est un matériau qu'il faut fabriquer. Et ça demande énormément d'énergie de transformer du sable en verre. Hein. Ouais. Bon, alors bien sûr, en recyclant le verre, on chinte un certain nombre d'étapes, mais on consomme quand même de l'énergie plus que quand on recycle les bouteilles en plastique de PET. Mais Danone, par exemple, un très bon exemple français d'efforts considérables pour recycler l'ensemble de leurs bouteilles.
Mais pendant longtemps, les industriels n'y allaient pas, parce que ça coûtait trop cher. Ce que vous vendiez, vous, ça coûtait trop cher. Oui. Est-ce qu'il y a enfin une économie qui permet que nous, consommateurs, au bout du bout, ça ne nous coûte pas non plus...
Qu'on ne paye pas tout ça.
Voilà, exactement.
Absolument, sauf que M. Dutheil, vous payiez la bouteille avant,
oui.
Et puis avec vos impôts, vous payez le traitement des pollutions, et notamment l'émission des gaz à effet de serre qu'il faudra bien traiter, vous, ou vos enfants, ou vos petits-enfants un jour. Si vous agglomérez les coûts que vous payez, eh bien, un coût du carbone, même modeste, bien plus faible qu'il ne coûte aujourd'hui, fait que le plastique recyclé est plus compétitif que le plastique vierge. Dès lors qu'on internalise le coût de la pollution, qu'on laisse à d'autres le soin de traiter, ou à d'autres générations, où là où on n'est pas raisonnable, dès lors qu'on fait cet effort de nettoyer nos saletés nous-mêmes, en l'intégrant dans le circuit de production, et bien effectivement, le recyclage, ça coûte moins cher, et ça émet moins de pollution.
Alors finalement, la France, elle est plutôt bien positionnée dans cette transition écologique. Est-ce que vous le constatez, Antoine Frérot ?
La France est...
on est plutôt pas mal.
Bien en avance sur bien des secteurs. Vous savez que,
il faut le dire.
Pour des raisons historiques, la France a été pionnière en matière de gestion de l'eau, en matière de traitement de l'eau, et c'est pas un hasard si les entreprises françaises travaillent dans le monde entier, et si par exemple la moitié des eaux usées recyclées dans le monde sont produites à partir des usines que Veolia a construites, par exemple. C'est également vrai pour le secteur des déchets. Il se trouve que la France est bien arrosée, donc elle a eu moins besoin que des pays arides de recycler l'eau. Mais en matière de déchets, nous sommes placés à la même enseigne que les autres, et effectivement, nous sommes bien placés pour recycler nos déchets.
On parle souvent, là, vous parliez des batteries électriques il y a un instant, on dit souvent, on ne sait pas les recycler et c'est peut-être le grand drame écologique de demain. J'ai entendu là au détour d'une phrase que pour vous, au contraire, c'est votre mine des années à venir. Vous savez déjà aujourd'hui recycler une batterie électrique, vous ?
Eh bien oui, on le sait. Je
vraiment
pas, ne pas vous avoir apporté la petite fiole de carbonate de lithium que dans notre première toute petite usine de recyclage des toutes premières batteries qui viennent en fin de vie, nous recyclons en Moselle, à Dieuze, où nous extrayons le lithium dans une forme directement exploitable par ceux qui fabriquent des batteries neuves. Et ça sera bientôt prêt pour le cobalt et les autres matières. Et nous sommes associés à Solvay et à Renault d'ailleurs pour tripler la taille de notre
usine. Solvay qui est un grand chimiste belge mais très présent
en
France.
Oui, nous savons aujourd'hui recycler les batteries. Alors ça coûte un peu cher et bien évidemment avec l'échelle, avec les tailles, les volumes qui vont venir, nous pensons que ça va énormément s'améliorer au point de vue coût. Aujourd'hui, il y a très peu de batteries en fin de vie. En 2030, on en attend 1 million en Europe, tous les ans. Bon, avec 1 million de batteries en Europe, oui, il y a
et
de quoi.
Et vous serez au rendez-vous, c'est ce que vous voulez. Vous allez donc investir fortement là-dessus.
Absolument. Nous allons construire d'abord nous triplons notre petite usine. Là, maintenant, nous allons construire une usine de grande taille dès 2025 pour recycler. Et j'aimerais pouvoir faire en France l'endroit où se recycler la majeure partie des batteries.
C'est-à-dire que vous allez localiser toute cette activité potentiellement mondiale en France,
non,
c'est ça que vous nous dites ?
Potentiellement européenne.
Européenne, ce qui est déjà pas mal.
Ces déchets sont des déchets toxiques, ils ont de la valeur, ils peuvent voyager sur à peu près 2000 km, et donc effectivement, on peut imaginer les transporter, ces vieilles batteries, sur 2000 km pour être recyclées. Et la France, surtout si elle accueille une grande usine de fabrication de batteries neuves,
ce qui va être le cas à Douai,
pour réutiliser nos matériaux recyclés, effectivement, la France a une carte majeure à jouer pour être le grand centre de recyclage des batteries.
Antoine Frérot, invité exceptionnel de La France Bouge, vous êtes le PDG de Veolia. Chaque jour, justement, dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui ont traversé les années, les générations, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on va s'intéresser au syndicat interdépartemental pour l'assainissement financement de l'agglomération parisienne. Je veux parler du SIAP. Les initiés le disent, hein. Le SIAP, il a été créé en 1970. Il nettoie les eaux usées des Parisiens avant de les rejeter dans la Seine.
Oui, c'est 9 millions d'usagers franciliens. Il paraît qu'ils gèrent un réseau de 400 km de tuyaux. Il paraît qu'ils ont l'une des plus grandes usines au monde en la matière pour faire cela. Et c'est Quentin Payet qui nous emmène dans les entrailles du SIAP.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Se brosser les dents, aller aux toilettes, faire la vaisselle, laver son linge, tout cela demande de l'eau, beaucoup d'eau qui part dans les égouts et puis on ne sait pas trop où elle termine. Eh bien à Paris, elle est jetée dans la Seine, mais avant cela, elle est nettoyée. Et ça, c'est le SIAP qui s'en occupe, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Créé le 31 août 1970, le SIAP est le fruit d'une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle et aux travaux du baron Haussmann. François-Marie Didier, élu de la ville de Paris et président du SIAP.
Exactement, on traite les eaux, c'est-à-dire on traite les eaux domestiques, donc votre douche, les toilettes, qui vont dans des réseaux, et ces réseaux arrivent directement dans nos usines et l'eau est retraitée ensuite reversée dans la Seine. On ne dépollue pas la Seine, hein, on ne s'occupe pas de la Seine en fait, on rejette les eaux usées des Franciliens dans la Seine. Et on rejette évidemment des eaux usées de qualité, puisque en 1990, il y avait à peu près 3 ou 4 espèces de poissons dans la Seine, alors qu'aujourd'hui, on a 34 espèces de poissons, ce qui veut dire que la qualité de l'eau de la Seine et de la Marne, puisque le SIAP, c'est aussi la Marne, est quand même... a été relativement amélioré depuis.
Le SIAP compte 6 usines. La principale est à Achères, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris. C'est la plus grande usine d'épuration d'Europe et la deuxième au niveau mondial, après celle de Chicago. L'eau emprunte un réseau de tuyaux de 400 kilomètres avant d'arriver à la phase finale de dépollution.
La dépollution des eaux, elle consiste en gros à éliminer 4 familles de polluants, donc les matières en suspension, les composés carbonés, azotés, phosphoré, et cette dépollution elle est effectuée par étapes. Ensuite, il y a des procédés biologiques, c'est-à-dire que l'eau arrive dans des bassins où il y a des bactéries finalement, et qui sont ces bactéries, ben elles dépolluent l'eau, elles avalent les bactéries. Et puis enfin, il y a un affinage chimique.
2,4 millions de mètres cubes d'eau usée sont traités tous les jours dans les 6 usines d'épuration. Le SIAP s'adapte constamment aux nouvelles contraintes et exigences environnementales. 6 milliards d'euros ont été investis ces 20 dernières années. Le nouvel enjeu maintenant, ce sont les Jeux Olympiques en 2024 à Paris.
On parlait des Jeux Olympiques, effectivement, il y a les enjeux de baignade qui sont des enjeux très importants pour le SIAP, puisque sur les investissements pour faire qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne en 2024, c'est à peu près un peu plus d'un milliard d'euros, et le SIAP porte environ un tiers de ces investissements. Donc forcément, on est contraint par un calendrier des travaux, par un objectif que nous voulons tous atteindre, c'est évidemment qu'on puisse se baigner dans la Seine et la Marne pour les Jeux Olympiques en 2024, et là-dessus, le SIAP, évidemment, il prend toute sa part.
On ne s'en rend pas compte, mais rendre l'eau de la Seine propre exige des moyens financiers colossaux. Le SIAP, c'est 1700 agents et 1,3 milliard d'euros de budget.
Voilà, c'était la saga du jour racontée par Quentin Payet de l'équipe de La France Bouge. Antoine Frérot, se baigner dans la Seine en 2024, vous le feriez, vous ? Vous y croyez ?
Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un beau rêve ?
Bah, c'est un beau rêve, mais depuis que Jacques Chirac nous l'avait promis, on commence à croire que c'est une utopie, vous voyez.
Oui, mais c'est magique. Et ces métiers qui rendent la planète propre, ces métiers qui permettent de développer l'activité proprement, de nettoyer la planète, ce sont des métiers magiques. Et effectivement, c'est un vieux rêve. Et je suis persuadé qu'on se baignera dans la Seine et dans la Marne en 2024.
Ah, vous êtes persuadé de ça?
Oui.
C'est demain, 2024. Hein.
Oui, les Jeux Olympiques, c'est bientôt aussi.
Bah oui, c'est pour
et
ça.
Vous savez qu'il y a des épreuves qui sont prévues.
Je sais.
Antoine Frérot, l'optimiste.
Voilà. Oui. Bon, on se retrouvera sur la plage de la Seine ou de la Marne.
Antoine Frérot, vous êtes le PDG de Veolia, invité exceptionnel. Vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On est très heureux en ce vendredi, une fois de plus, de vous accueillir avec Elisabeth Assayag chez nous, autour de la table de La France Bouge. On vous retrouve chaque jour de 13h à 14h du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle retraitement des déchets et valorisation de nos déchets. Et là, on doit le dire, on a à nouveau une super idée pour notre trophée de l'avenir européen, La France Bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Là, vous pouviez avoir difficilement plus grand spécialiste, puisque c'est Antoine Frérot, le patron de Veolia. On a une autre spécialiste, pas facile à convaincre non plus, hein. Je suis sûr qu'elle a déjà toutes ses suggestions préparées. Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI.
Bonjour Julien Pack.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Vous avez 24 ans, vous êtes basé à côté de Beauvais et vous êtes le cofondateur de Ciao Mego. Cette start-up recycle les mégots pour en faire une matière isolante. Alors quand je dis une matière isolante, eh ben, ça veut dire de la matière pour rembourrer par exemple les doudounes ou encore pour le bâtiment, c'est ça, pour isoler les murs.
C'est ça exactement. Donc, pardon, Lucie.
Ben non, mais même si vous êtes tout jeune, hein, le projet a tout de même 3 ans. Il a fallu beaucoup de recherches pour que ça fonctionne. Vous allez nous raconter la belle histoire de Ciao Mego. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Alors le but de Ciao Mego, c'est de collecter, dépolluer et recycler écologiquement les mégots de cigarettes. Donc on est une entreprise, mais on a 3 activités. C'est assez ambitieux, mais le but c'est de pouvoir tout gérer, de boucler la boucle. Donc la première activité, c'est la collecte. On distribue sur le territoire national des solutions, des cendriers et des kits de recyclage. Le but, c'est de sensibiliser les gens pour mettre le déchet au bon endroit. C'est aussi de pouvoir les sensibiliser à ne pas fumer plus. Le but, c'est aussi de leur montrer ce qu'on extrait de la matière. Ensuite, une fois qu'on a répatrié le mégot sur site, on arrive à extraire la toxicité de la fibre en concentré. On a développé un process qui extrait justement la toxicité sans utiliser d'eau et sans utiliser de solvants toxiques. Donc c'est vraiment ça l'innovation. Et c'est ce qui nous a permis d'être labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Et donc on récupère un matériau propre. On a travaillé avec des laboratoires de l'État pour montrer que la fibre sortait bien de son côté dangereux. Et donc on a plus d'odeur, plus de substances toxiques. Et donc on la réutilise pour faire de l'isolant, à la fois dans le bâtiment et même dans la doudoune. Ça paraît fou, mais ça fonctionne.
Bah dis donc, vous
ça
êtes excellent.
Ça paraît complètement fou, il est excellent. Non, je attendez, le valide moi, à 200%.
Vous avez
voilà,
24,
je dis rarement ça.
Vous avez
mais c'est
24
vrai.
Ans, Julien. Alors j'espère ne pas dire d'année, mais vous avez recruté dès la première année, vous avez triplé votre chiffre d'affaires et vous visez les 700 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires là déjà, c'est ça?
C'est ça, on a été créé, donc Ciao Mego, c'est un projet qui a été créé il y a 2 ans et demi, c'était mon stage de fin d'études. Sur la première année, on a fait quasiment 200 000 euros de R&D sur la partie process.
Vous êtes ingénieur. Hein.
Oui, c'est ça.
Et vous avez 6 brevets sur tout le
C'est ça, on a déposé 6 brevets, on a recruté 9 personnes sur la première année et là on a triplé notre chiffre d'affaires, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires la première année et là on va en faire 600 000, voire quasiment 700 000 sur cette seconde année.
Et le tri se fait à Beauvais. Et la transformation à 1h30 donc, de Beauvais.
Et vous voulez ouvrir une usine, c'est ça?
C'est ça. En fait, le but, c'est pour nous, c'est de passer de la preuve de concept qu'on
et
a à l'heure actuelle.
Et rien qu'à 24 ans. Nous, on n'a rien fait de notre vie. Vous avez
je confirme. Bon, allez. Nathalie Carré, vous, ça va vous... Je vous entends rire. Non, mais c'est tellement injuste.
Non, mais Emmanuel, il se désespère à chaque fois.
Non,
mais vous désespérez pas.
Bah, tellement
non, vous avez
formidable.
Fait des belles choses. On a fait des grandes choses. On a fait la France bouge.
Je trouve ça formidable.
Et alors? Et Ciao Mego, Nathalie Carré, les forces, les faiblesses, s'il y en a?
Ben, y a du boulot, hein, parce que, en fait, c'est 68 milliards de cigarettes fumées par an en France. Je savais pas. Hein. Et à peu près 40 milliards de mégots jetés au sol. Donc, effectivement, on peut collecter.
Venir sur la terrasse d'Europe 1, je peux vous dire, elle est vaste, mais il y a un paquet
c'est
de
vrai
mégots.
C'est vrai. Ah, ben
ça,
voilà.
Ça représente quasiment 3 fois le poids de la Tour Eiffel en termes de poids.
Ah oui.
Incroyable. Ouais.
Donc, il y a vraiment du boulot.
Il y a la matière première.
Il y a vraiment la matière première. Bravo pour l'innovation, parce qu'il y a d'autres acteurs qui font du mobilier urbain, du plastique, de l'énergie même, mais je n'ai pas vu d'isolant, donc bravo. Puis alors, vous avez vraiment pensé à tout. Il y a les collecteurs pour tout le monde, même les particuliers. On peut vous envoyer le sac une fois qu'on a tout mis dans un sac plein.
Bon, c'est surtout pour les entreprises, quand même, il faut le dire. On sait.
Oui, mais il y a la version particulière aussi.
Ouais. Oui.
En tout cas, c'est, vraiment, vous avez pensé à tout, c'est vraiment hyper pratique.
Alors, merci beaucoup.
J'ai pas de point amélioré vraiment, mais peut-être une suggestion. Donc, je l'ai dit, il y a plusieurs entreprises proposent la collecte et le recyclage des mégots, mais chez vos concurrents, en fait, on donne nos mégots de cigarettes, puis ensuite, on sait pas. Avec vous, on peut retrouver nos déchets dans notre doudoune ou sur nos murs.
C'est incroyable.
Il y a un petit côté il y a un petit côté César qui rend un César. Donc, vous avez effectivement intérêt à travailler avec les structures qui accueillent un collectif d'individus et qui ont besoin de vêtements pour leur personnel. Je pense aux supermarchés, aux entreprises de bâtiments, aux espaces de coworking. Avec une bonne communication interne, ça fera une espèce de projet d'entreprise où le personnel saura que leurs déchets sont valorisés et deviennent leur doudoune, par exemple, avec la marque de l'entreprise dessus. Et voilà, ça fait un vrai projet d'entreprise motivant pour les salariés. Vous proposez un pack avec les bornes pour la récupération collective, les cendriers de collecte individuelle, les cendriers de voiture, parce qu'on fume aussi dans sa voiture, dans sa maison, et il y a des commerciaux, et les doudounes au nom de l'entreprise.
Ah oui, tout le aussi, cercle vertueux.
Le pack complet, cercle vertueux, exactement.
Et un des gros points forts, c'est dans l'extraction de la toxicité, en fait, parce qu'aujourd'hui, le mégot est un déchet dangereux, et il faut pouvoir, avant de le redistribuer,
c'est
en produit
recyclé. C'est là où vous avez déposé notamment quelques brevets.
C'est ça, exactement. C'est l'extraction des substances toxiques qui sont justement sans eau et sans solvants toxiques. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs.
Vous êtes en train de nous montrer quelque chose, Antoine Frérot, du doigt, là.
Comment ils extraient la toxicité et comment ils purifient la fibre.
Et vous ça vient de la petite fiole.
C'est ça, exactement. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on a, à la fin du process, on a 99,7% de la fibre qui est propre et 0,3% concentré. Et en fait, on a déplacé la pollution, mais vraiment qu'en concentré. Elle est pas mélangée. mélangés à d'autres substances, comme de, enfin à d'autres sources, comme de l'eau, comme de l'eau de Javel ou des choses comme ça.
Moi je dis ça, je dis rien, Antoine Frérot, patron de Veolia, mais vous devriez les racheter tout de suite, là ça coûte pas encore trop cher. Donc,
Déjà, on va se charger de traiter le résidu toxique, parce que là c'est du vrai toxique, on ne peut plus rien en faire.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet?
Eh ben, il est formidable. 25 000 tonnes de déchets polluants, pollution visuelle dans les villes, déchets toxiques comme Julien l'a dit.
Je crois que vous êtes client dans les Hauts-de-France, c'est ça? Vous l'avez découvert en venant à l'émission, mais vous êtes client dans les Hauts-de-France. Hein.
Absolument. Ils ont, Ciao Mego a installé des équipements comme ceci dans les bureaux de Veolia.
Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez les voir.
De la région Hauts-de-France et début d'Île-de-France, absolument.
Vous auriez un petit jeune comme ça là, qui viendrait pitcher dans votre bureau, vous diriez chapeau mon gars, non?
Absolument, mais tout à l'heure, je vous ai expliqué à quoi servait le nouveau Veolia, Veolia élargi. Inventer les solutions dont on aura besoin et qui n'existent pas encore.
Donc il répond à votre cahier des charges, il invente les solutions de la transformation.
Maintenant qu'il l'a fait lui-même à son compte, je pense qu'il est bien content comme ça aussi. Mais Veolia, ce n'est pas seulement inventer. Tout seul chez lui, chez nous.
C'est
également être en partenariat avec d'autres startups. Tout à l'heure, on l'a vu avec IAGE. Donc, on invente en même temps chez nous, mais également, on peut proposer en plus nos sites comme sites de test pour les inventeurs,
comme des
les
incubateurs,
inventions.
Une forme d'incubateur.
Absolument, comme un incubateur. Et alors, justement, on rentre dans ce cas-là, soit en contrat commerciaux, éventuellement exclusif, soit on peut racheter la start-up si jamais on pense qu'elle est plus au cœur de notre système.
Oui, Julien, on y arrive.
on va y arriver. Vous allez signer, il y aura un truc. En tout cas, nous, on va regarder attentivement Ciao Mego, hein, parce qu'on a eu un vrai coup de cœur. Merci à vous, Julien Pack, cofondateur de Ciao Mego.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès lundi. Si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet, c'est très simple. Une seule adresse mail, lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge.
Allez, suite et fin de votre émission avec notre invité exceptionnel, Antoine Frérot, PDG de Veolia.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On parle retraitement des déchets avec un invité exceptionnel aujourd'hui, Antoine Frérot, qui est le patron de Veolia. Alors Antoine Frérot, vous avez donc créé ce nouvel ensemble en avalant, on l'a dit au début de l'émission, une bonne partie de Suez. Ça a été une bataille homérique. Rarement il y a eu autant de coups bas de la part et d'autres dans un tel rapprochement. Ça marquera l'histoire du capitalisme à la française. Comment on fait maintenant pour effacer tout ça? Les gens de Suez, ils sont vraiment contents de venir travailler chez vous?
Je peux vous dire qu'ils sont impatients de le faire.
Vraiment ?
Bon. Parce que le projet que je vous ai décrit tout à l'heure, le grand champion mondial de la transformation écologique, accéléré pour l'ensemble des villes et des industries, cette transformation écologique, c'est un projet enthousiasmant. Comme celui de se baigner dans la Seine. Et donc, si la bagarre avec la direction de Suez... quelques personnes a été vive.
Vous regrettez quand même, parfois.
Pardon ?
Vous regrettez quelques petits mots, quelques...
Non, parce que ce projet, il a du sens. Et je rappelle qu'il est né dans lorsque Suez a été mis en vente. Quelqu'un l'aurait acheté, puisqu'il était mis en vente. Ce quelqu'un, il n'y avait qu'un Français, c'était Veolia. Mais il y en avait d'autres. Bon. Et effectivement, le fait que Suez reste Français et s'agglomère à Veolia... pour avoir cette force, cet outil industriel permettant à la France de rayonner et surtout d'apporter des solutions, il n'y a rien à regretter. Et je pense que ce projet, l'enthousiasme de ce projet, il est largement partagé par les gens de Suez qui nous rejoignent et qui maintenant hâte de voir démarrer la finalise.
Et puis, fait très rare, Antoine Frérot, dans l'industrie, c'est une femme, Estelle Brachlianoff, qui va vous remplacer. Elle était déjà l'une de vos plus proches soutiens dans l'entreprise. Ça aussi, ça a du sens pour vous? Ce n'est pas un hasard?
Vous savez, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'Estelle va prendre ma succession. C'est parce que c'est la meilleure. Il se trouve qu'en plus, c'est une femme et ça tombe bien.
Mais vous êtes un rare patron industriel à le faire. Ça, elle est sûrement la meilleure. Mais vous avez voulu aussi donner du symbole, et tant mieux. Il n'y a que deux femmes qui dirigent des groupes dans le CAC 40.
C'est une très bonne chose. Vous savez que les métiers de Veolia, l'eau et les déchets, l'énergie, sont des métiers qui sont peu féminisés. En Occident, ce n'est pas le cas d'ailleurs en Asie, c'est le contraire même. Et donc, nous avons un vrai enjeu, puisque nos clients sont toute la population, au moins pour les services que nous proposons aux villes. Et que donc, le fait que nos salariés, notre personnel, reflètent cette typologie de clients, donc à parité par construction, c'est important.
Donc la meilleure de tous.
Oui.
Vous aviez rêvé de cette opération. C'est pas trop dur de passer la main au moment où vraiment ça se concrétise. C'est comme si vous lâchiez le bolide au début de la course.
C'est le bon moment. C'est le bon moment, monsieur Dutheil. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est un tiers de plus de Veolia. Et c'est un projet d'ampleur. Un projet, bien sûr, avec des fruits à attendre à court terme, mais surtout à moyen et à long terme, comme je l'ai dit. Il faut donc de l'espace de temps en face d'une équipe de direction pour planter ses fruits et récolter. Et donc, c'est le bon moment. Un nouveau projet, nouveau patron, nouvelle équipe de direction. Elle était prête. Ça fait 10 ans que je travaille avec Estelle et avec les autres collaborateurs. Ils m'ont aidé à redresser Veolia, à la projeter vers l'avenir. C'est donc le bon moment de passer la main à une équipe nouvelle, avec une directrice générale nouvelle, qui va justement emporter vers l'avenir ce beau projet.
Alors vous êtes dans un métier qui embauche énormément. Combien d'offres à pourvoir aujourd'hui chez Veolia, Antoine Frérot ?
Alors en France, il y en a 2000 que nous recrutons chaque année à pourvoir, parce que nous trouvons bien sûr des candidats.
Mais il paraît que c'est très dur en ce moment, c'est vrai ?
Pas plus qu'avant. Nous avons toujours une centaine de postes non pourvus, assez répartis d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, dans nos différents métiers. Beaucoup sont avec des qualifications, par exemple les électromécaniciens, qui sont toujours une ressource rare dans notre pays. Mais également, il y a des postes sans grosse qualification.
Et vous formez, vous avez des CFA chez Veolia.
On a effectivement des CFA et on les forme. Et d'ailleurs, sur les 2000 qui nous rejoignent, il y en a chaque année plus de la moitié qui sont formés dans nos CFA.
Allez-vous augmenter les salaires ? Hier, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, le demandait en direct sur Europe 1.
D'abord, je voudrais rappeler que lors de la grosse crise du Covid, en 2020, lorsque certaines de nos activités ont dû s'arrêter, comme beaucoup de nos activités, même si nous avions eu aussi des activités qui sont restées opérationnelles tout le temps pour distribuer l'eau et collecter les déchets, lorsque nos activités de maintenance, de travaux se sont arrêtées, nous avons pris soin de maintenir la totalité des rémunérations de tous nos personnels.
Mais là, est-ce que vous allez les augmenter ?
Alors attendez, j'y viens. Donc nous avons pris soin autant de la santé physiologique que de la santé économique de nos salariés. Et c'est la politique de Veolia. Une performance certes économique, mais également sociale, sociétale, environnementale, une performance plurielle. Puisqu'en 2021, l'inflation a augmenté, donc le coût de la vie a augmenté, effectivement, nous prévoyons d'augmenter les rémunérations. Les séances de NAO viennent de
débuter.
De négociations.
Donc vous n'allez pas nous dire de combien.
Annuelles obligatoires viennent de commencer. Nous avons débuté. Nous avons débuté à 2,5% pour tout vous dire.
Mais quand même,
vous voyez.
Voilà, ça va finir un peu plus haut. Parce
j'aimerais
que...
qu'ils vous entendent tous.
Ah ben non, mais attendez, il faut se mettre à l'emploi.
Elles viennent de commencer, jamais ce matin, avant de vous rejoindre. Une première discussion d'ailleurs.
Bon,
avec les syndicats.
C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Antoine Frérot, invité exceptionnel, d'être venu dans la France Bouge, PDG de Veolia, le grand champion mondial de la transformation écologique. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge. Nous, Emmanuel, on se retrouve lundi.
Oui, on va parler des futurs Veolia, parce qu'on va faire une émission spéciale sur les licornes. On n'arrête pas d'en parler. C'est quoi une licorne ? Qui sont-elles ? Et on va notamment s'intéresser à OVH, le leader en Europe du cloud.
À lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.